happen.
Groovy.
Bonjour, Françoise Trossard et la belle équipe pour la récré de France Culture au menu. Suite de notre émission spéciale des Papous, enregistrée en public le vendredi 4 novembre dernier au studio 105 de la Maison de la Radio. Un lieu chaleureux, le 105, une grande scène pour nos jeux et une salle pleine de vos rires, de vos applaudissements. Photos à découvrir sur franceculture.fr et sur notre page Facebook. Rejoignez-nous les amis. Plus de 2h30 passées ensemble, toutes de complicité. Et pour employer un mot délicieusement démodé, c'était chouette. Une soirée des papous que j'avais voulu tout amour dans un monde de brutes, ça ne peut faire que du bien. Alors vous avez pu écouter la première partie des papous tout amour, dimanche dernier, retrouvée en podcast quand vous voulez. La suite c'est maintenant, avec Jean-Bernard Pouy, Jeanne Carillon, Lucas Fournier, Eva Almassi, Gérard Mordilla, Odile Conseil, Patrice Caumont, Patrice Minet, Sophie Divry, Hervé Letellier et Gabriel Godard pour nous accompagner en musique. Les papous, tout amour, suite. On va jouer au bourrimé. Ah, ceux qui écriront des poèmes... Odile Conseil, Hervé Letellier et Gérard Mordia, ils les écriront devant vous. Alors, dans la salle, Jeanne Carillon et Lucas Fournier vont venir à votre rencontre. On va jouer de la façon suivante, c'est-à-dire que vous allez donner des mots. À chaque fois qu'il y aura un mot qui sera choisi, adoubé par nos futurs poètes, eh bien nous, à la table, et peut-être avec votre aide, on trouvera un mot qui rime avec lui. D'accord ? Alors évidemment, il s'agit de donner des bons mots, des mots qui donnent envie de raconter des histoires, surtout poétiques, mais pas poétiques poétiques excitantes, amusantes, des mots contemporains. On fait dans la poésie contemporaine avec eux. Allez, qui a un premier mot ? Donc choisissez bien vos mots. D'accord ?
J'en ai un ici, là.
Oui.
Hurluberlu.
Hurluberlu, hurluberlu. Il y a déjà quatre pieds. Vous prenez ?
Oui.
Oui, bien sûr.
Allez,
oui.
Vous notez. Et donc, un mot qui rimerait avec hurluberlu.
Merlu. Oui, merlu, c'est bien.
Merlu. Allez, merlu. Allez, on prend merlu.
Petit lu, c'est mieux.
Non, merlu. Merlu.
Allez, ce sera le merlu, Hervé. Un deuxième mot, Lucas Fournier.
Ah, monsieur.
Crucifère.
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 Ah, ça rime avec Lucifer. Oui. Vous prenez le crucifère ?
Non.
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 Pas trop crucifère, moi. Non. Lucifer, par contre, je prends.
Ah oui, mais ça n'a pas été dit. Alors, un non, désolé, monsieur, mais c'était un bon mot. Hein. On le retient pour
une
autre fois.
Très bien.
Alors, il y a quelqu'un là au deuxième rang. Peut-être vous êtes sous le micro d'ambiance. Si vous criez, on vous entendra.
Écorniflé.
Non. Il ne faut pas oublier quand même que quand on a des quatre syllabes, c'est assez compliqué à créer en peu de temps. Hein.
Oui, voilà. Ils vont avoir une vingtaine de minutes. Pas, je vous préviens d'ailleurs, oui. Vous n'aurez guère plus. Hein.
Ouais. Nous avons donc, ici une...
Bévue.
Ah, bévue, oui. Ah,
bah, c'est avec... mignon, bévue.
Bévue, oui.
Hein? Alors, un mot qui rime avec bévue, vu...
Sans-tu.
Non, ça ne veut pas.
Lustu, cru. Non, c'est pas ça, c'est qu'il faut qu'il y ait la consonne d'appui,
ah,
vu. Hein? Non, c'est mieux.
Revue.
Revue.
Oui, revue, revue oui.
La revue.
Très bien,
revue. Mais vous aurez une troisième chance. Hein. si, oh ben, si, je vous en prie. Autrement, on va culpabiliser.
Alors, un nouveau mot, agermou.
Adverbe, sans piéger, qui veut dire manquer de se casser la figure en butant dans quelque chose.
Vous l'écrivez comment ?
Sans piéger, sans piéger.
Monsieur l'écrira tout seul. Il nous fera un poème lui-même.
Bon, on n'en veut pas, désolé, un autre côté Lucas.
Ficelle.
Ficelle.
Oui, ficelle. Très
joli. Ficelle, c'est bien ça.
Parfait,
ficelle.
C'est bien, ficelle.
Allez, je vous en prie, donnez la rime.
Pixel.
Crécelle.
Ah, pixel, c'était pas mal.
Oui, mais pixel.
Escarcelle. Ah. Pucelle.
Ah, pucelle.
Ah, ouais, bah, pucelle, pucelle.
Pucelle, allez, pucelle.
Ficelle, pucelle, ça plaît à Hervé parce qu'il est bien muet, le pauvre.
Pucelle me plaît, oui, bien sûr, pucelle me plaît.
Quatrième mot, Jeanne.
Tourmentin.
tourmenta. C'est pas mal d'avoir un verbe conjugué, non?
C'est un nom, c'est une petite voile qu'on met en cas de tempête.
Le tourmentin. Ah.
Tourmentin. Oui. Pas tourmenté, ah, tourmentin.
Tourmentin. Oui, oui, avec Tintin.
Tourmentin.
Tourmentin, oui, très bien.
Popotin.
Yen.
Oui,
Tartarin.
Tartatin.
Tartatin, oui.
Ah, tartatin, c'est pas mal.
Tatin, tout court.
Oui. Ça va là, là. Non, mais tartatin, c'est bien. Tourmentin.
Tartatin.
Un mot ici. Bulldozer.
Ah oui.
Bulldozer.
Bulldozer.
Ah, on a des mots qui...
Tannhauser.
Non.
Donc, vous prenez le bulldozer?
Oui.
Alors, une rime en Ozer.
Oh, ah, c'est joli. Buenos Aires.
Oh, Buenos Aires, bien sûr. Encore? Encore des mots?
Peut-être des noms.
Encore des mots, toujours des mots.
Un nom propre, s'il vous plaît, un nom propre.
Toujours les mêmes.
Un personnage.
Tam-tam.
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 Tam-tam. Tam-tam.
Vous prenez?
Oui.
Non, mais vous n'êtes pas obligé, Gérard, vous avez l'air navré. Non, mais pas de tam-tam.
Non, c'est tam-tam.
Ah.
Tam-tam. Tout dépend de la rime.
Ah, oui, ça dépend de la rime, oui.
Parce que...
Notre-Dame?
Hippopotame?
Amsterdam?
Hippopotame?
Amsterdam. Hippopotame.
Tam-tam. Oui, tam-tam, hippopotame. Allez, hippopotame. D'accord. Oui.
Allez, un nom propre.
Oui, pour qu'il y ait un personnage
un propre,
dans l'histoire.
S'il vous plaît.
Un nom propre, Armstrong.
Un nom propre.
Armstrong, nous avons ici Armstrong.
Oui, et là-bas, nous avons Robinson.
Aphrodite.
C'est une déesse.
C'est difficile, ils sont tous tellement formidables, ces mots.
Aphrodite, on a choisi quoi, finalement?
Aphrodite.
Vénus. Vénus.
Aphrodite et maudite.
Alors, Aphrodite, vous prenez...
Cellulite.
Cellulite,
oui, très bien. Alors, voilà. Faire rimer Aphrodite et cellulite, c'est salaud, mais c'est bien.
Allez, 15e et 16e mot. De votre côté, Jeanne.
Pyjama.
Ah, pyjama,
ah, pyjama. Pyjama, c'est pas mal.
Lucrèce.
Pyjama. Alors, attendez, on est sur pyjama d'abord. On prend pyjama?
Oui.
Oui.
Et donc, on la couple avec quoi?
Tarama.
C'est bien pour la cellulite.
Au point où on en est, oui.
Et alors, un dernier mot ici.
Eure-et-Loir.
Ah, très bien.
Ah.
Ah ben voilà un lieu, oui.
Ça, c'est bien.
C'est bien, ça. Qui va rimer avec...
Tamanoir. Haute-Loire, Haute-Loire.
Passoire, c'était pas mal. Enfin, ça fait rime masculine, rime féminine, c'est pas...
Mangeoire.
Montoire.
Parloir, c'est
Voltigeur.
Mieux.
Voltigeur.
Hein.
Parloir. Il vaudrait mieux une rime masculine, quand même, pour rimer avec cœur et loire.
Parloir.
Parloir. Allez, parloir. Et ensuite... Bon, on arrive presque à la fin de 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Les deux derniers mots, alors gâtez-les, hein, s'il vous plaît. Madame, je vous en prie. Cunégonde. On va prendre Cunégonde parce qu'on lui a déjà refusé deux mots. Alors, Cunégonde.
Micro-ondes.
Et c'est parfait, micro-ondes, non?
C'est parfait, ben oui, avec le mirlu, ça va.
Bon, je vais relire les mots.
Oui.
Hurluberlu, merlu, bévu, revu, ficelle, pucelle, tourmentin, tarte, tatin, bulldozer, buenos aires, tam-tam, hippopotame, aphrodite, cellulite, pyjama, tarama, eure-et-loir, parloir, cunégonde, micro-ondes. Et bien avec ça, vous allez écrire des poèmes. C'est pas facile, hein, c'est pas gagné. Vous leur donnerez un titre à vos poèmes. Ne traînez pas. On peut les encourager un petit peu. Hein, parce que... Vous voulez nous parler de quelque chose que vous détestez, Luc Fournier, parce qu'il y a l'amour et le contraire, la haine ou le non-amour ou le désamour.
Je hais le selfie.
Mais pourquoi?
Bah déjà, selfie vient de l'anglais selfish, qui veut dire égoïste. Bon, oui, voilà, tout est dit là. Hein. Le selfie, cette perversion narcissique qui consiste à vouloir sans cesse s'immortaliser soi-même en se photographiant à bout portant avec son téléphone portable. Alors certains poussent le vice jusqu'à utiliser des accessoires pervers comme cette espèce de canne à pêche métallique et télescopique au bout duquel pendouille le Nikon du 21e siècle, le Polaroid du digital, le Kodak des geeks, enfin tout ce qu'il faut pour se tirer le portrait. Tu veux ma photo?
Ouais.
Pendant longtemps, le touriste de base cherchait une carte postale en couleur. Il mettait son nom derrière. Bon baiser du Mont-Saint-Michel. Souvenir de Alzheimer. c'est en Autriche. On pense à vous à Bled. Ça, c'est en Slovénie. Bisous de Nuuk, c'est la capitale du Groenland. Le cachet de la poste faisait froid. Grâce au selfie, plus besoin de choisir une carte sur le présentoir, plus besoin de penser à ce qu'on va écrire sur la carte. Non, il suffit de se mettre devant le paysage. Oui, aujourd'hui, il ne s'agit pas de photographier un site ancestral ou un panorama à couper le souffle, non. Parce qu'il y a quelque chose de tellement plus intéressant, c'est soi.
Ah,
alors,
oui.
Pas de timbre exotique non plus. On forward le cliché en PJ. Et quand on rentre, on se la raconte. Moi, je vous la raconte. Mon voyage en Toscane. Tiens, en 150 portraits auto-pixelisés. Là, je vous montre. Donc là, c'est moi au Palio de Sienne. Là, on voit mon bouton sur le nez, oui. Là, c'est moi sur les remparts de Montepulciano. Non, j'étais pas bien coiffé. Là, c'est moi devant les fresques de Fra Angelico à Arezzo. Dommage, je ferme les yeux sur la photo. Là, c'est moi à l'abbaye de San Gimignano. Ah non, non, c'est pas San Gimignano, là. J'avais pas pris ma chemise noire en Italie, non. Le type à côté de moi, on dirait mon beau-frère. Non, alors, ou plutôt... Non, Nicolas Dupont-Aignan. Ah oui, j'ai fait un selfie avec lui au salon de l'auto. Ou alors c'est Michel Drucker, je sais pas. Enfin, alors moi, quand je vois un selfie, je pense à Philippe de Champaigne.
Ah oui.
Mais si, Philippe de Champaigne, mmh. Né à Bruxelles, en 1602. Vous le remettez, non? C'était le précurseur fatal de l'autoportraituration. Il trouvait que rien n'était plus beau que lui et digne d'être peint. Alors, on est à la radio, mais vous avez tous en tête son portrait. On y voit son regard de traviole, son œil chassieux, son visage chafouin, ses cheveux aplatis, sa barbiche flasque. Alors, après Philippe de Champaigne, c'est Rembrandt qui s'y est collé dans l'autoportrait. Alors, plus près de nous, Van Gogh, Picasso ont fait des selfies avec pinceau. Ensuite, ça dégénère. Tout le monde, les gens, quoi, le monde entier s'est mis au selfie. Chacun se prend à la fois pour Douaneau et Capa, l'art et le reportage, et le talent. Le selfie, c'est le studio Harcourt à la portée des caniches. Regardez cette jeune fille sur le pont. Quel pont? Danube, Neva, non, on s'en fiche. Le sujet, c'est elle et son minois. Alors, qu'est-ce qu'elle a, ta Google? Qu'est-ce qu'elle a, sa gueule? Bah, rien. Elle a une tête de selfie, là. Le menton en avant, le visage penché, le sourire un peu forcé, une coquetterie dans le regard, une crispation de l'avant-bras droit, à force de tenir à bout de bras son téléphone à photo, là, une crampe, même on sent la souffrance. Hein. Ah, il faut souffrir pour être laide. Hein. Pourquoi faut-il qu'elle se contemple ensuite dans le miroir figé de l'écran du portable? iPad, qui est la plus belle. Et à qui tu les montreras, tes photos, m'a-t-on tremblé? Aux autres, qui en ont autant à ton service? Ah, tu vas les poster sur Facebook pour que tes followers puissent te regarder. Mais personne ne la voit dans le monde réel. Alors le monde qui n'existe pas, celui du cloud, des merveilleux nuages, lui fait croire qu'elle va être regardée. Mais le cloud, le nuage, ma pauvre chérie, c'est de la fumée. Le hashtag, littéralement, jour de cendre, c'est de la poudre de perlimpinpin. Tu es H et à une tag, tu te tourneras en poussière. Et l'image reste de l'image, un reflet, un rond dans l'eau. Le selfie nous donne des idées noires. On est dans la métaphysique pure. À force de vouloir immortaliser ces instants qu'on oublie de vivre parce qu'on les photographie, le temps s'en va. Le temps non, comme dit Ronsard, mais nous, nous en allons. Et tôt serons-nous étendus sous la lame. Allez, on va pas finir sur un cliché. J'ai mon appareil. Et on se fait un petit selfie, Françoise.
Ouais.
Merci.
Moi, je vous trouve bien dur avec les selfies. Vous aimez les selfies dans la salle, vous en...
Non.
Ah, bon. Ah, moi, j'en connais une qui adore. Je crois même qu'elle aurait pu inventer le selfie. C'est Eva Almassi.
Oui, j'étais une pionnière.
Eh oui. Ah, ça vous déçoit, hein. J'ai entendu un « oh ». Non, mais « nobody's perfect ».
Alors voilà, je vous prends au mot, monsieur Lucas Fournier. Oui. Vous dites, on est dans la métaphysique pure.
C'est ça.
Avec ce portrait dont vous tirez le portrait, nous sommes chez les présocratiques. On plonge dans le fleuve d'Héraclite, qui n'est jamais deux fois le même pour s'y baigner. Vous pensez que c'est la même tour Eiffel le lundi que le vendredi. Eiffel, à une lettre près, l'anagramme de selfie. Un selfie sur la plage, un selfie dans la neige. Le temps passe sur les images et l'eau coule sous les ponts. Observez cette photo de moi, prise par moi-même devant la porte B de la maison de la radio il y a 2 heures. Vous voyez là, derrière mon épaule, on distingue clairement le démon de l'éternel retour du même de Nietzsche. Il me demande, il vous demande, il nous demande de renoncer au ressentiment contre le temps et son il y avait. Nietzsche et Serge Gainsbourg, même combat, la gueule que j'ai aujourd'hui, je la regretterai dans 10 ans. Et il n'avait même pas Photoshop, lui. Il a vieilli dans l'argentique, alors que moi, sur mon ordinateur ou mon téléphone avec Instagram, après avoir éliminé 199 posts sur 200, le mauvais profil, le pli sous le menton, et effacé les cernes, et vivifié le cheveu terne, et magnifié le contre-jour qui est, entre parenthèses, ma spécialité, je rejoins ainsi métamorphosée ma modeste petite collection de moi-même. Moi, non sans échanger avec les amis. On est loin de l'égoïsme dont vous parlez. Quand je fais de la confiture de mur, je partage. Il en va de même avec le selfie. Il faut mettre l'accent sur le côté self-made, do it yourself, ce que l'on fabrique soi-même. Prenons votre exemple. Vous avez des enfants, je crois. Eh bien, la nature a fait un montage entre vos moitiés de selfies dans les spermatozoïdes et les moitiés de selfies de l'ovule de votre femme. On connaît le résultat. Se multiplier et disséminer ces selfies, c'est la vie même qui veut ça. Certains réussissent mieux que d'autres. Hélas, dans un mois, le virus de la grippe viendra faire de millions de petits selfies de virus en prenant mon nez et ma gorge pour une imprimante en 3D en surchauffe. Là, d'accord, ces selfies-là, je ne les aime pas. Mais vos propres selfies, Lucas, souriant devant votre Rembrandt ou devant un Van Gogh, je prends, je les archive, je suis bonne poire, je les apprécie. Vous dites que c'est de la métaphysique, j'ajoute qu'il y a là-dedans de la poésie, ce dur désir de durer, immortalisé en un fragment de seconde. Envoyez-moi vos images, vous, entourés, mis en valeur par vos petits chatons, que c'est mignon. Tout est là, nous existons. Vous qui avez en horreur les nuages virtuels, les clouds, regardez le ciel quand il se reflète bleu dans l'eau de la mer. Clic, 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 clic. Je pense que le ciel nous fait là son selfie. Vous ne trouverez rien à y redire, j'espère.
Un moment tout amour avec les papous dans la tête de France Culture. On va jouer avec les périphrases et donc des périphraseurs. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué avec Jean-Bernard Pouillet, Val Massy, Patrice Caumont, Lucas Fournier et Patrice Minet. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien, au départ, j'ai donné une simple phrase toute courte avec 3 substantifs à Jean-Bernard Pouillet. Je la lui ai offerte et je lui ai demandé de transformer les 3 substantifs ou groupes substantivaux en périphrases, mais des périphrases de son imagination, bien sûr, mais qu'il peut tout de même justifier. Alors après, qu'est-ce qu'il a fait? Bien, il a inséré ses périphrases dans le texte que je lui avais confié et il a passé son œuvre, en quelque sorte, à Eva Almassy, qui s'est trouvée être la deuxième périphraseuse. Elle a fait pareil, elle avait évidemment beaucoup plus de choix. Elle a choisi 3 substantifs, les a remplacés par des périphrases, les a insérés et transmis à Patrice Caumont, qui en 3e position a fait la même chose. Tout ça est arrivé à Lucas Fournier, qui a joué lui aussi, c'est ça, hein, Lucas. Évidemment, vous avez écrit un très long texte parce que les périphrases gonflent, une petite idée toute simple au départ. Et ce très long texte a été donné, cadeau, à Patrice Minet, à charge pour lui de le décortiquer, de le décoder, de retrouver les mots cachés sous les périphrases et peut-être la phrase de départ, qui sait ?
Ouais, ça m'étonnerait.
Alors, oui, elle est tellement simple, la phrase de départ. C'est une jolie phrase que je vous ai donnée, Jean-Bernard Pouy.
Oui, une jolie phrase. Ça fait un peu bizarre, mais enfin, oui. C'est une phrase de Mao.
Oui, je vous l'ai dit Mao parce Zedong. Que vous ne l'aviez pas deviné. Hein. C'est une phrase tirée de son petit livre rouge, parce que j'ai ça à la maison.
Alors j'ai
cherchais une phrase pour jouer au périphrase, je suis tombée sur celle-là.
J'ai pas dû lire bien le petit livre
rouge. Alors allez-y.
À mon avis, c'était une phrase d'un document de Leroy Merlin. Un peu. Donc la phrase, la voilà, elle est très simple. Tous les soirs, à 23h05, le voisin du dessus plante un clou.
Voilà, c'est joli, Mao. Non ? Il y a de quoi s'amuser avec ça. Alors, je voudrais, avant que vous nous donniez vos périphrases, je voudrais me tourner vers Patrice Minet et lui demander, puisque vous êtes en position de dépériphraseur, si vous êtes arrivé à une phrase qui ressemble à celle-ci. Tous les soirs à 22h05, le voisin du dessus plante un clou.
Eh bien, je suis très, très loin de ça.
On va voir où l'information s'est diluée. Donc, Jean-Bernard Pouy, vous n'avez
moi,
pas
j'ai
beaucoup
fait
le choix.
Pour une fois, très simple et très clair.
Oui, c'était très joli. Oui.
Alors, j'ai pris soir, les moments où les très petits enfants se mettent à pleurer d'angoisse.
C'est pas faux, ça.
Le voisin du dessus, l'homme qui porte en permanence des chaussures de ski et qui, une fois par an, laisse les robinets de sa baignoire ouverts en grand.
C'est pendant les vacances, oui.
Et le clou, ce qu'il ne faut pas prendre pour un doigt... même en visant la tête.
Alors ça, c'était un peu ambigu, oui. Il y a des réactions autour de la table, parce que vous avez traîné ça tout le temps, hein. Patrice Comont, Lucas Fournier.
Alors ce qui fait comme phrase, oui, maintenant c'est plus du Mao, c'est plutôt du Liu Shaoxi. Bon, enfin bref. Tous les moments où les très petits enfants se mettent à pleurer d'angoisse, à 23h05, l'homme qui porte en permanence des chaussures de ski et qui, une fois par an, laisse les robinets de sa baignoire ouverts en grand... plante ce qu'il ne faut pas prendre pour un doigt, même en visant la tête.
C'est joli, c'est un texte intéressant. Hein. C'est simple. Alors, Eva Almassi, je ne vous demande pas si vous avez compris le texte, mais peut-être quand même.
Si, absolument.
Ah bon ?
Jusque-là, aucun problème.
Bon, donc vous avez fait votre choix aussi,
J'ai les mêmes voisins que Mao. Alors. Moi, j'ai pris les très petits enfants.
Oui, le groupe.
Et puis, chaussures de ski, et puis un doigt.
Oui.
Les très petits enfants, ce sont des tendres organismes infiniment complexes, à peine sortis du moule de Dame Nature, et pas encore jetés dans l'arène de la vie politique.
Mais pas que.
Mais pas que. Oui, mais oui. Là, comme on voit ça tous les jours, ben voilà.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, je sais bien, vous avez quelque chose à redire, Lucas, je vous entends.
Ah non, mais c'est la vie politique, c'est Mao, finalement, on retrouve
ah
le
oui,
sens
en
premier,
plus,
bien sûr.
Oh, mais merci, oui. Merci. Oui.
C'est la grande marche aussi pour les chaussures.
les chaussures de ski, maintenant.
Ah, c'est pas commun.
Chaussures de ski. Coque rigide de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, représentant un petit pas pour l'abominable homme des neiges, mais une grosse gamelle pour l'usager en cas de décrochage.
Ah oh bah oui, on ne peut pas dire le contraire. Voilà, évidemment, ça complique un peu l'histoire, mais c'est très juste.
Doigt, outil sophistiqué, encore plus visible les nuits de la pleine lune et que tout le monde a 24 heures sur 24 à portée de sa main. Alors les nuits de la pleine lune, vous l'aurez compris, c'est allusion à quand le sage montre la lune, le sceau regarde son doigt.
Ah. Qui est aussi une phrase de Mao Tse-tung.
Bah, c'est une sagesse chinoise, exactement.
Alors,
ah oui, alors ça donne un texte.
Ah oui,
ça doit que je vous lise ce que ça donne.
Oui. Oui.
Tous les moments où les tendres organismes infiniment complexes, à peine sortis du moule de Dame Nature et pas encore jetés dans l'arène de la vie politique, se mettent à pleurer d'angoisse à 23h05, l'homme qui porte en permanence des coques rigides de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, représentant un petit pas pour l'abominable homme des neiges, mais une grosse gamelle pour l'usager en cas de décrochage, et qu'une fois par an laisse les robinets de sa baignoire ouverts en grand et plante ce qu'il ne faut pas prendre pour un outil sophistiqué, encore plus visible les nuits de la pleine lune et que tout le monde a 24 heures sur 24 à portée de sa main, même en visant la tête.
Oh, bravo. Voilà.
Alors,
Alors, je dois à l'honnêteté de dire que lorsque j'ai envoyé le texte d'Eva à Patrice Comon par mail, j'ai reçu un coup de fil me disant « Je comprends rien, t'es sûr que tous les mots sont dans le bon ordre ?» Et eh bien oui, vous avez vu, quand elle dit son texte, ça fait sens, Patrice.
Ah bon?
À ce moment du jeu, je crois qu'il serait bon de rappeler la phrase de départ, Jean-Bernard Puy.
Tous les soirs, à 23h05, le voisin du dessous plante un clou.
Ah, on s'est déjà légèrement éloigné, mais bon. Ah alors, bon. Ben, vous aviez énormément de substantifs et le choix entre trois.
Moi, j'ai pris des mots simples et j'ai fait des définitions simples aussi pour redonner du sens à ce texte qui, à mon avis, partait un petit peu en vadrouille. Donc, j'ai pris le mot « moule ».
Ouais.
Au singulier, tel qu'il est dans le texte, car on n'a pas le droit de
former
le...
Ah non, il ne faut pas tricher à ce jeu, non.
Moule, fidèle reproducteur, qui pratique la mise en forme, même complètement beurré, mais gâche tout dès qu'il s'attache ou se détache.
Ah. C'est joli, ouais, très joli.
Robin... Alors là, c'est le groupe nominal, sinon c'était trop compliqué. Robinet de baignoire ouvert en grand, parce que ça ne va pas...
Ouais.
Donc, les robinets de baignoire sont les pleureuses du tombeau de Marat qui, de leurs yeux grands ouverts, versent à flots chaudes larmes ou froids sanglots.
Ah, ah. Oui. Et vous prétendez avoir voulu simplifier.
Ah bah, c'est évident. Et le troisième, c'est Outil,
ouais.
Acteur ayant la tête de l'emploi, partenaire efficace des répétitions à la chaîne, doué pour les effets de manche, mais très porté sur la bricole.
Oui. Il faut, on le mettra sur le site, hein, le texte, ah comme oui, ça on pourra l'analyser tranquillement.
Ce qui alors, nous donne
oui.
Tous les moments où les tendres organismes infiniment complexes, à peine sortis du fidèle reproducteur qui pratique la mise en forme, même complètement beurré, mais gâche tout dès qu'il s'attache ou se détache de Dame Nature et pas encore jeté dans l'arène de la vie politique, se mettent à pleurer d'angoisse. À 23h05, l'homme qui porte en permanence des coques rigides de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, représentant un petit pas pour l'abominable homme des neiges, mais une grosse gamelle pour l'usager en cas de décrossage, et qui, une fois par an, laisse les pleureuses du tombeau de Marat verser à flots chaudes larmes ou froids sanglots de leurs yeux grands ouverts, et plante, ce qu'il ne faut pas prendre pour un acteur sophistiqué ayant la tête de l'emploi, partenaire efficace des répétitions à la chaîne, doué pour les effets de manche, mais très porté sur la bricole, encore plus visible les nuits de pleine lune, et que tout le monde à 24 heures sur 24 a porté de sa main, même en visant la tête.
C'est bien, c'est un joli texte. Et heureusement, il y avait dans la phrase de Mao un verbe, c'était oui. Plante. Donc je pense qu'on va le garder jusqu'au bout. Hein. Il n'y avait aucune raison d'y toucher. Donc Lucas Fournier, bon, même question un petit peu qu'à tous. Quand vous recevez ce texte, vous vous dites, je vais essayer de comprendre ou pas?
Ah non, 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 non. Non, je vais essayer de simplifier. Je me dis, je vais essayer de simplifier
oui.
Le texte.
Oui.
Donc en prenant des mots simples, avec des définitions simplissimes.
Oui, alors
j'ai choisi reproducteur.
Oui.
Qui est tentant, l'homme et la tête.
Oui.
Qu'est-ce qu'un reproducteur? C'est un père de famille, très nombreuse, anti-Malthus et pro-Bourdieu, pourtant rarement en situation d'ajouter des demi-parts à son quotient familial ou de bénéficier des avantages généreusement prodigués par la SNCF.
C'est pas l'enfant unique de Mao, quoi.
C'est vrai.
Après. Voilà.
Alors un homme, qu'est-ce qu'un homme? Eh bien un homme... François, c'est le fils de sa mère.
Ouais.
Ayant réussi à franchir le cap de l'enfance et la péninsule de l'adolescence et voguant sur l'océan de la vie vers une destinée individuelle indécise qui se terminera par un naufrage.
Oh. Très joli.
Ouais.
Oh oui.
Et enfin la tête.
Uh-huh.
Le meilleur pour Robespierre, pour les gondoles et pour les amateurs de veau. Et le pire pour les puissances de deux, les nœuds et les amateurs de cochons.
Pourquoi le pire pour les puissances de deux?
Le pire pour les puissances de deux, parce que c'est la tête au carré.
Ah,
qui est assez désagréable.
Ah, c'est très culturel. Hein.
C'est mathématique.
Enfin, un niveau scientifique. Ouais. Oui, mathématique. Oui. Alors, bon, glissez vos périphrases dans le texte de Patrice Comon.
Et ben, du coup, ça se tient un peu mieux. Et pour la clarté de l'exposé, je me suis permis de rajouter quelques mots pour mieux scander le texte. Hein.
Oui.
Tous les moments où les tendres organismes infiniment complexes, à peine sortis du fidèle père de famille très nombreuse, anti-Malthus et pro-Bourdieu, pourtant rarement en situation d'ajouter des demi-parts à son quotient familial ou de bénéficier des avantages généreusement prodigués par la SNCF et qui pratiquent la mise en forme même complètement beurrée, mais gâchent tout dès qu'ils s'attachent ou se détachent de Dame Nature et pas encore jetés dans l'arène de la vie politique, se mettent à pleurer d'angoisse à 23h05, le fils de sa mère, ayant réussi à franchir le cap de l'enfance et la péninsule de l'adolescence et voguant sur l'océan de la vie vers une destinée individuelle indécise qui se terminera par un naufrage. Ce fils qui porte en permanence des coques rigides, oui, le naufrage,
ouais.
Des coques rigides de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel représentant un petit pas pour l'abominable homme des neiges, mais une grosse gamelle pour l'usager en cas de décrochage et qui, une fois par an, laisse les pleureuses du tombeau de Marat verser à flots chaudes larmes ou froids sanglots de leurs yeux grands ouverts. Ce fils plante ce qu'il ne faut pas prendre pour un acteur sophistiqué, ayant en son emploi le meilleur pour Robespierre, pour les gondoles et pour les amateurs de veaux et le pire pour les puissances de deux, les nœuds et les amateurs de cochons, acteur doué pour les effets de manche, mais très porté sur la bricole, encore plus visible les nuits de la pleine lune, et que tout le monde a 24 heures sur 24 à portée de sa main, même en visant le meilleur pour Robespierre, les gondoles et les amateurs de veaux, et le pire pour les puissances de deux, les nœuds et les amateurs de cochons.
Ah, on termine sur le cochon.
On termine ça. Sur le cochon, oui.
Ah oui, non, mais... oui. Très bien.
Comme disait Mao, dans le cochon, tout est bon.
Alors, rappelons la phrase, tous les soirs à 23h05, le voisin du dessus plante un clou. Maintenant, Patrice Minet, c'est à vous de faire votre petit numéro pour essayer d'arriver à quelque chose. Donc, vous avez décortiqué, isolé les périphrases et trouvé des mots dessous.
Voilà.
J'ai ne été prenez gâtée. Pas l'air navré.
Alors, après, j'ai décortiqué.
Oui.
Et puis après, j'ai essayé de trouver un sens à ce qui restait.
Ouais. Alors, allons-y, décortiquons.
Tous les moments.
Oui.
Toujours. Où les tendres organismes infiniment complexes. Les cœurs,
ah ben oui, oui.
À peine sortis du fidèle père de famille très nombreuse, frais, anti-Malthus et pro-Bourdieu. Alors là, mystère et boule de gomme. Pourtant, rarement en situation d'ajouter des demi-parts à son quotient familial ou de bénéficier des avantages généreusement prodigués par la SNCF et qui pratique la mise en forme même complètement beurrée. Mmh. Moi, j'ai trouvé quelque chose de ça. Mais pauvre, sédentaire et sportif. Mais gâche tout, dès qu'il s'attache, malheur en amour donc, sentimental, ou se détache de Dame Nature, antinaturiste.
Ouais.
Se détache de
Dame Nature. Non mais on est là, on est avec vous Patrice.
Ah, merci. Ouais. Et pas encore jeté dans l'arène politique, non candidat.
Voilà, on se raccroche à quelque chose.
Vous êtes gentille. Se mettre à pleurer d'angoisse, panique, à 23h05. Un peu avant minuit.
Oui, c'est pas faux.
Le fils de sa mère, l'enfant,
oui.
Ayant réussi à franchir le cap de l'enfance et la péninsule de l'adolescence, adulte,
oui.
Et voguant sur l'océan de la vie vers une destinée individuelle indécise qui se terminera par un naufrage avant de vieillir. La vieillesse est un naufrage.
Oui.
Ce fils plein de coquards dû aux chutes, accidentier, c'est un aventurier, plante un cabot. Alors planter un cabot, dans le Médoc, on appelle ça une plante à cabot, c'est un style de bouture, comme on plante une vigne, si vous voulez, pour ceux que ça intéresse. Et pour les amateurs de veau, alors ceux qui aiment, qui sont français, de Gaulle, les Français sont des veaux.
Ah oui, c'est plein de références.
Et française.
Et donc ?
Alors, je tombe sur une phrase qui ne fait pas plaisir et que je vous livre. Toujours les cœurs purs et ouverts, mais pauvres, seuls et sportifs, sentimentaux ou antinaturistes, non candidats, panique avant minuit. Ces jeunes adultes, avant de vieillir, un peu aventuriers et féministes, plantent une vigne résistante, économique et française. Sans pucerons, ni vrille, ni gourmands, au pif, mais quand même en visant le meilleur et le plus résistant, économique et français.
Et
ça restait quand même un petit peu abscon. Donc oui. Je me suis dit qu'il fallait resserrer encore.
Ah ben c'est pas bête ça.
Voilà.
Oui.
Donc toujours les innocents sans expérience, isolés, mal dégrossis, paniquent en fin de soirée. Ces postes pubères sans a priori plantent une bonne treille OGM, pas chère et d'origine contrôlée.
Ah oui. Et finalement, c'est une phrase très joliment écrite.
Mais je trouve que c'est...
ça pourrait ressembler à qui ?
Il y a du style.
Oui.
Et je ne voyais plus que Gustave Flaubert.
Ah ben voilà. On est parti de Mao pour arriver à Flaubert. C'est tout un parcours. Jeanne Carillon, elle ne fait pas des périphrases, mais elle nous chante les mots. Elle a imaginé une histoire de mots sur l'air de Tico Tico. Et elle est accompagnée au piano par Gabriel Godard. Musique.
Un petit mot par-ci, un petit mot par-là. Pour cette chanson, j'en ai réuni tout un tas. Un tas de mots vieillots, désuets et même d'argot. Les mots, je les aime, tous les mots sans distinguo. Un mot doux par-ici et un gros mot par-là. Des mots qui claquent, qui chantent et donnent le la. Les mots, je les aiguise et vive les mots valises. Les mots tabou, interdits de les interdire. Y'en a certains qui restent en travers de la gorge, qui sont mangés, engloutis comme un sucre d'orge. Les mots d'auteur, les mots d'excuse, les mots d'amour, les mots outils, bien placés, bien choisis, font de la poésie. Chercher ces mots, toujours chercher ceux qui font mouche, ce qu'on susurre et ce qu'on aime mettre en bouche. Parler à demi-mot, parler à mots couverts, chanter tous les mots plutôt que de se taire.
On va jouer au droit de réponse. Vous savez qu'il y a des personnages de fiction qui ne sont pas tout à fait contents de l'histoire dans laquelle on les fait mariner ou dans laquelle on les fait poser. Et c'est Sophie Livry qui l'a rencontrée et qui parle par sa bouche. C'est qui ce personnage, Sophie ?
C'est le fromage.
Mais quel fromage ?
Le fromage de la fable de La Fontaine, le corbeau et le renard.
Celui qui tombe par terre ?
Ah ben oui, justement.
Ah oui, c'est pas alors, confortable, c'est ah pas
non,
drôle.
Non, il n'est pas content, donc il écrit à l'auteur.
Ouais, mais il a raison de se plaindre.
Ah, il a plein de raisons de se plaindre.
Oui. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit ?
Cher Jean, permets-moi de t'appeler Jean, cher auteur, car dans ma famille, on n'est pas très porté sur l'étiquette. Puis le type qui a besoin de regarder l'étiquette pour savoir notre nom n'est pas digne de nous déguster. Mais ne pas avoir de nom du tout, ça, Jean, je ne te le pardonnerai jamais. Un fromage. Ouais. Comment peut-on être qu'un fromage au pays où il y en a 400 ? Mais ce n'est pas le pire. Le pire, c'est de commencer ma vie dans le bec d'un vulgaire corbeau et de la finir dans la gueule puante d'un renard. Alors ma première demande, c'est d'avoir un nom, d'être distingué.
Bah, c'est normal.
Oui. Puis ça permettrait d'adapter le conte à chaque région.
Oui.
Si on est dans l'Aubrac, on pourrait dire Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un laguiole. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ses paroles. Et puis, à Nîmes, dans le Gard, on dirait Maître Corbeau, sur un bel olivier, tenait en son bec un pélardon. Maître Renard, par l'odeur attirée, décida de lancer la conversation.
Ah, c'est une bonne version, ça,
c'est
oui.
C'est très pratique, tout de même. Quand même.
Oui.
Bon, mais moi, je ne suis qu'un... C'est toi le poète, hein. Moi, je ne suis qu'un fromage, tu affineras. À défaut de voir un nom, je sais, on m'imagine rond et ferme, hein, comme un reblochon qui saurait se tenir. Mais qui sait si je ne suis pas de la concoyotte dans un pot en terre et velant sur la gueule du renard. Il ferait moins le malin, celui-là. Alors, Salvador Dali a donné un rôle clé au camembert coulant dans son œuvre.
Oui.
Alphonse Daudet a décrit avec tendresse le chèvre de M. Seguin. Moi, tu ne me décris pas du tout. Alors, note que j'ai failli avoir un nom quand, à ta première idée, Jean, tu voulus me glisser dans une autre fable qui aurait commencé ainsi. Perrette sur sa tête, ayant un coulommier bien posé sur un coussinet. Là, mais tu renonces et finalement tu m'as mis entre ces deux animaux répugnants, méchant homme. Tu fais apprendre aux écoliers que c'est parfaitement normal qu'un corbeau ait un fromage dans le bec assez abusé, comme dirait ma copine la vache qui rit. La vérité, c'est que tu avais un fromage sous la main et tu ne savais pas qu'en faire. Alors, tu as bien essayé de le placer dans le menu du héron, mais il n'en a pas voulu. Alors tu as commencé à t'énerver. Tu as refilé la peste à tous les animaux, mais finalement, haro sur le frometon, ça sonnait moins bien que haro sur le baudet. Alors, j'étais en train de couler lamentablement sur ta plume d'oie quand tu m'as mis dans le bec de ce corvidé, ce qui est complètement invraisemblable. Et tout le monde avale ça depuis 2 siècles. Ma croûte se hérisse rien que de songer à continuer ce manège, ne serait-ce qu'un siècle de plus. Et moi,
oui,
j'avais des envies plus nobles, plus originales.
Des rêves.
Oh, je me voyais déjà partir pour un conte en Afrique, dans la brousse, ou pour une fable en Russie. Ah, j'aurais été très bien dans le rôle de docteur Livaro. Je m'arrête là, Jean, mais mes revendications, les voilà, elles sont simples. Acquérir un nom et une famille fixe. Ne pas subir de vols planés, ça fait tourner le lait. Être décrit par au moins 4 vers, mais 3 seraient un compromis acceptable. Enfin, être mis dans la bouche d'animaux plus nobles, le lion, par exemple, serait bienvenu. À défaut d'obtenir satisfaction, je me laisserai transformer en ver de terre pour l'éternité. Et je signe donc le fromage.
Oh, pauvre fromage anonyme. C'est vrai, Jean de La Fontaine, Lucas Fournier, que I had fromage in Africa, oui. Ça aurait été formidable quand même.
Ce petit fromage est délicieux et je, oui, je ne suis pas resté insensible à son appel.
Bon, non, vous lui répondez.
Oui. Et monsieur du fromage, que vous êtes gentil, que votre drame est beau et votre babil belle. Oui. Vous voulez 4 vers et qu'on vous donne un nom. Quand le fromage est bon, il y a souvent des vers. Je pourrais dire non, vous dire c'est râpé, mon cher petit fromage, mais ce serait dommage. Aussi, pour vous complaire et puis pour me distraire, laissez-moi vous servir plus chaud qu'une fondue le plateau de l'hommage offert par les poètes, les fées, les doux, les frais, les secs, tous confondus, qui vous délecteront ainsi qu'une raclette. Victor Hugo d'abord. Il se vexe sinon. Minster ce clacos aux arômes si doux, suivi d'un seul époisse qu'il aimait entre tous pour sa grande senteur et pour son goût à l'ail, emplissait tout entier un soir de boostify l'étal du fromager sur qui tombaient les mouches. Verlaine, je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'un édame inconnu que j'aime et je reprends. Ronsard, biscotte, allons voir si le chèvre, qui ce matin est en promo, n'a point perdu cette vépresse à croûte de pourpre à l'hyper. Charles Péguy. Heureux les Kirifrais et les petits Gervais. Heureux ceux qui sont forts et qui sentent mauvais. Corbeau, pardon petit fromage, je veux dire corneille. Nous partîmes 500 mangeant du roquefort et vomîmes 3 fois en arrivant au port. Apollinaire aussi, un soir de demi-Brexit à Londres, un voyou qui ressemblait au chabichou vint à ma rencontre et le cheddar qu'il me jeta me fit baisser les yeux de honte. Et La Fontaine, enfin, moi, le plus grand poète qui inspirait par toi, compose dans l'instant une fable charmante. Il y a 2 morales, c'est pour te faire hommage, le titre en est joli, le poète et le fromage. Le poète et le fromage. Un poète se délectait dans le courant d'une lecture. Un fromage s'en vint râler, criant à forfaiture. « Maître, je suis là des corbeaux de tous les renardeaux, leur bec fétide et leur vilaine haleine. » « Qui te rend si hardi de contester ma fable ?» lui fit notre poète en un ton peu affable. « Le droit de tout fromage, bien fait de bon laitage. » Mais qui es-tu maintenant à vouloir davantage? Un livaro goûteux, un camembert onctueux, un cantal idéal ou une cancoyotte? Je ne suis pas de cela, non. Dommage, fromage. Je veux comme eux un nom et je serai heureux, non. Je voudrais aussi une place auprès du lion de Thrace, dans une fable immense, une épopée intense. Je veux que pour toujours à la postérité, je sois au premier rang et que mon nom soit grand. Le poète est coulant. C'est là son moindre défaut. Sois sage, ô mon fromage. J'ai là ce qu'il te faut. Je t'ai mis dans ma fable. Pour la moralité, j'entends qu'on pose 2 d'exquise qualité. Le minster le plus fort est toujours le meilleur. Voici pour la première. Et quant à la seconde, je vais te la servir dans moins d'une seconde. Là-dessus, le poète le prend et puis l'avale. Moralité, ce n'était vraiment pas la peine d'en faire tout un fromage.
La récré de France Culture, c'est les papous dans la tête, bien sûr, les papous en public. Au 105, tout amour. Alors on va retrouver, c'est l'heure de retrouver nos poètes. Odile Conseil, Gérard Mordillat, Hervé Le Tellier ont eu des mots magnifiques. Ils ont eu 20 mots pour composer chacun un poème. Odile Conseil, vous voulez bien nous rappeler ces mots ?
Avec plaisir. Hurluberlu, merlu, bévu, revu, ficelle, pucelle, tourmentin, tartatin, bulldozer, buenos aires, tam-tam, hippopotame, aphrodite, cellulite, pyjama, tarama, heure-et-loire, parloir, cunégonde, micro-ondes.
Alors, ce n'est pas des mots faciles à glisser dans une poésie, à imaginer. Vous aviez tous les droits, évidemment, opter pour l'octosyllabe, le décale, alexandrin, toujours valeureux, avec césure les mystiches, on l'espère. Évidemment, vous avez fait quel choix, Gérard Mordillat ?
J'ai pris de l'alexandrin.
Oui.
Voilà.
Et quels sont les deux mots, le couple de rimes qui vous a déterminé dans une histoire ?
Cunégonde et micro-ondes.
Ah, les derniers mots !
Oui.
Vous voyez, madame, vous avez bien fait de donner cunégonde.
Le poème porte un titre, il s'appelle « Cuisine d'amour ».
Ah, très bien.
Tourmentin, notre chef sacré hurluberlu, s'était mis en tête cuisiner du merlu pour plaire à sa chérie, la belle Aphrodite, dont l'arrière-train, hélas, souffrait de cellulite. Elle était si mastoc que même en pyjama, on pouvait voir en elle 100 kilos de tarama.
Ah oui, mais...
Elle adorait danser au son de gros tam-tam. Son pas était alors celui d'un hippopotame. Une fois dans un concours ouvert à Buenos Aires, elle avait remporté le prix du bulldozer. Mais elle ne supporta de son cher tourmentin d'être félicitée comme une tarte tatin. Là, il était trop tard d'effacer sa bévue. Aphrodite s'enfuit, il ne l'a jamais revue. Tombant désespéré au cœur de l'Eure-et-Loire, il échoua en prison, refusant tout parloir. Tourmentin libéré rencontra une pucelle, délicieuse enfant, fille vraiment ficelle. Il reprit un resto, aima Cunégonde, l'a mis dans son lit et dans son micro-ondes.
Vraiment bravo, parce que avec tous ces mots qui n'allaient pas vraiment ensemble, vous avez composé une vraie histoire. Il y a Hervé Le Tellier qui est un peu pâle, il est jaloux.
Infiniment
il va
jaloux.
Passer en dernier, on
Infiniment
verra.
Jaloux.
Alors, Odile Conseil, c'est à vous. Est-ce que vous optez aussi pour l'alexandrin ?
Moi, je fais tout comme Mordillat. J'opte pour l'alexandrin, Cunégonde m'a inspirée.
Oui.
Et mon histoire est une assez forte parenté avec la sienne.
Ah bon ? Et le titre ?
Gare au Merlu. Écoutez la complainte de mamselle Cunégonde, qui n'avait rien pour elle, pas même un micro-ondes. L'été moche comme une lente, râpeuse comme une ficelle, étonnez-vous alors qu'elle soit restée pucelle. D'autant qu'elle travaillait au Carmel d'Eure-et-Loire, briquant les crucifères, non les crucifix, briquant les crucifix, astiquant le parloir. Elle espérait pourtant et priait Aphrodite, « S'il te plaît, pulvérise cette masse de cellulite !» Oh, pauvre Cunégonde, la laideur te tourmente, hein ?
Ah !
Bravo !
Non, mais elle avait le droit, hein, elle avait le droit.
Elle se consolait avec les sœurs Tatin, tartinant les goldens d'une couche de tarama, avant de s'enfoncer dans un vieux pyjama. Elle partait en Afrique faire un stage de tam-tam ? On la qualifiait de « gras hippopotame ». S'essayait au tango un jour à Buenos Aires. Son cavalier disait « Vous êtes un bulldozer ». Elle rencontra Albert, un bel hurluberlu qui ne mangeait jamais rien d'autre que du merlu. Elle lui fit de la raie. Oh non, quelle bévue ! Il fila telle languille, ne l'a jamais revue.
Ben oui, c'est normal. Mais c'est elle qui aurait dû partir la première, non ? Très joli, bravo à vous aussi. Alors, évidemment, Hervé Le Tellier, on passe en troisième. C'est pas facile parce qu'ils ont été très brillants. Oui. Qu'est-ce que vous nous avez écrit, vous?
J'ai fait une chanson.
Ah bon?
En hommage à un prix Nobel récent.
Ah, Bob Dylan.
Et parce qu'il a été cité un tout petit peu avant, j'ai oui. pu entendre la chanson qui a été mentionnée.
Oui.
Et donc, j'ai repris cette chanson qui, je le rappelle, est donc Blowing in the Wind.
Oui, donc vous allez la chanter debout, hein, parce qu'on chante debout
oui, oui,
quand
oh,
même.
Bah oui.
Alors bon, évidemment, je ne sais pas, ce serait plus joli si vous étiez accompagné au piano. Est-ce que Gabriel, par hasard, connaît Blowing in the Wind? C'est oui, pas c'est mal, ça. Mais est-ce ça, que c'est bon mal. Ton pour Hervé? Faites un petit essai.
Il n'y a pas de bon ton pour moi.
On se lance direct.
Est-ce que baptiser son enfant Aphrodite lui évitera la cellulite? Est-ce qu'en pleine tempête, quand on mêle à tourmentin, on vomit moins sa tarte tatin? Est-ce qu'il suffit de bien savoir jouer du tam-tam pour faire danser un hippopotame? C'est fou les questions qu'on peut passer en revue. Et bévu, ça rime avec revue. Est-ce que ligoter des gars à la ficelle, ça protège vraiment les pucelles? Et combien faut-il avoir de bulldozers pour pouvoir détruire tout Buenos Aires? En mangeant toute l'iode contenue dans des merlus, est-ce qu'on devient moins hurluberlu? C'est fou ces questions qu'on peut passer en vue, car ces revues, ça rime avec bévu. Qui fait la plus grosse tache sur un pyjama? Le yaourt ou bien le tarama? Une fille s'appelle Anne et l'autre Cunégonde, laquelle cuisine au micro-ondes? Quand on a 3 minutes à passer au parloir, est-ce que c'est le moment de demander où est l'Eure-et-Loir? C'est fou ces questions qu'on peut passer en vue. Tiens, revue, ça rime avec bévue. C'est fou ces questions qu'on peut passer en vue. Tiens, revue, ça rime avec bévue.
Et tout ça a été écrit sous vos yeux. Alors, on va se quitter sur une page de pub. Une publipapocité écrite par Patrice Caumont, avec des rôles pour Eva Almassy, Hervé Le Tellier, Jeanne Carillon. Et puis des chansons, des jolies chansons pour Gabriel Godard, qui joue du piano aussi. Cette pub, c'est une pub pour les stoïciens ou les stoïchiens plutôt, non, Patrice Caumont, les stoïchiens.
Oui, les stoïchiens.
Votre vie est plus déprimante que de Tchekhov.
Vous êtes stressé, nerveux, vos feux de détresse clignotent.
L'émotionnel vous paralyse, l'angoisse se somatise.
Et votre indice de désespoir grimpe sur l'échelle de Kierkegaard.
Le monde vous démoralise.
Et quand il n'y a plus de gâteau, où poser la cerise?
Ne restez plus seul. Adoptez un ami, un compagnon fidèle.
Oui, pour soulager vos peines. Choisissez un stoïcien en peluche.
Quand la vie vous laisse aux abois, le stoïcien, lui, va vous japper un air joyeux.
Lorsque tout vous abandonne et que vous perdez pied, votre stoïcien pose une patte bienveillante sur votre bras tremblant.
Le gentil stoïcien console, c'est son rôle, et redonne du sens à votre vie.
Alors, dès aujourd'hui, profitez de l'offre exceptionnelle sur nos peluches. Chacune a un nom et un pédigré, comme Zénon de Citian, par exemple.
Et à Zénon, vous ne saurez dire non. C'est un véritable stoïcien d'origine, aux poils frisés. Son succès, dû à la profondeur de ses silences, en fait notre chien de bataille.
Si vous préférez le poil rat, vous choisirez Cicéron, le latin câlin qui fait ronron sur votre épaule.
Rien de mieux qu'un bon stoïcien pour donner un vrai coup de collier au moral.
C'est bien le stoïcien pour la déprime. Un vrai stoïcien au poil blanc, ça fait plus de bien que l'aspirine. Pour le moral, c'est remontant. Le stoïcien vous tient compagnie, c'est super cool la taraxie. Vos ennuis, les anesthésies, c'est un adoucisseur de vie. C'est bien le stoïcien pour la déprime. Le stoïcien, si réconfortant. Leur donc, ça, ce n'est pas que de la frime. Tu vis.
Vous craquerez pour la petite tête d'Épictète. Ce stoïcien en plus n'a ni besoin, ni passion dévorante. Il ne mord ni ne ronge. Et vous économisez des croquettes, c'est lui-même qui fournit la pâtéia.
Efficace, c'est le bon Épictète pour Épictète.
Mais si vous avez le moral dans les cothurnes, le stoïcien qu'il vous faut, c'est le Sénèque, un épagnol romain, très affectueux et plus malicieux qu'un Fénèque.
Le Sénèque, c'est le nec plus ultra du réconfort.
Un vrai stoïcien qui soulage vos douleurs et oppose son veto à la morosité.
Vous découvrirez qu'un stoïque, c'est comme un vélo électrique. Ça aide à remonter la pente.
Et grâce à la taraxie, vous verrez, la vie, ça roule bien mieux en taxi.
Méfiez-vous des contrefaçons chinoises, genre Lao Tse et autres Tao Pantin.
Pour supporter cette chienne de vie, exigez un stoïcien d'origine garantie par Aurel, notre marque séculaire.
La marque Aurel, c'est l'épicure de rappel.
Mieux vaut un stoïcien qu'un vulgaire toutou. On joue sa vie, mais on joue à l'atout. On ne souffre de rien et l'on se moque de tout. Ça fait du bien d'être pas mal du tout. Mieux vaut un stoïcien qu'un gros lac kangourou. La grosse tête, c'est pas le genre d'Épictète. C'est trois fois rien la vie qu'on mène jusqu'au bout. L'épicurien, de la faim, il s'en fout. Quand on veut plus morfler, c'est comme de la morphine. Merci docteur, c'est une sacrée doctrine. T'as plus la tête enflée, tu fais bonne mine à ton destin qui sans toi se dessine. Mieux vaut un stoïcien qui va rire de tout. Pleurer, ça sert à rien et ça vaut pas le coup. La vie ou l'au-delà, c'est la même tombola. Aux aléas, aux allées de sang-froid.
Les papous, tout amour, avec le final, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission proposée par Françoise Tressard avec Anne de Pelchin, Bernard Laniel, Romain Lenoir et Régis Nicolas. Attachée de production Marie Dalquier. À podcaster sur franceculture.fr. Et nous, on se retrouve dimanche prochain de 19h à 20h, horaire d'été. Bonsoir.